Merci, Seigneur. Merci, bon berger, de t'adresser à ta brebis, à tes brebis. Merci, parce que tu as encore un mot, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Même à la fin de cette réunion, Seigneur, tu es là. Tu es là, Seigneur, encore pour nous parler, pour nous visiter, pour nous fortifier, pour poser ta bonne main sur nous. Même si notre corps est un peu fatigué, Seigneur, toi, tu n'es point fatigué. Tu es le prince de la vie. Tu es le Dieu de la résurrection et de la vie. Alléluia! Et tu fortifies nos corps fatigués. Tu vivifies nos esprits. Et tu guéris encore des corps. Et tu sauves encore au milieu de nous, Seigneur. Alléluia! Et que ta puissante résurrection agisse au milieu de nous. Seigneur, tu veux encore donner, tu veux encore bénir. Nous voulons t'ouvrir nos cœurs et recevoir encore ce que tu donnes dans ton amour. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. Je crois que le Seigneur a encore une œuvre à faire au milieu de nous. Et il veut se manifester. Nous allons nous attendre à lui. Alléluia. Que son nom soit béni. Nous allons lire un passage dans les Évangiles et voir un caractère merveilleux de Jésus qui était la clé de son ministère. Et ce caractère, Dieu veut aussi le manifester dans nos vies et qui doit être comme un peu la clé de notre ministère, de notre vie chrétienne. D'après vous, quelle était la clé du ministère de Jésus en rapport avec la prière pour les malades? C'était quoi? J'ai entendu là quelque chose? La compassion, exactement. La compassion de Jésus. Jésus était ému de compassion. Et j'aimerais que vous dire quelques mots sur cette compassion de Jésus avant de prier les uns pour les autres. Et nous allons voir les quatre qualités de cette compassion divine. Non seulement Jésus avait cette compassion, mais il veut aussi que nous ayons la même compassion, n'est-ce pas? Et s'il y a un domaine où nous devons grandir, c'est bien dans ce domaine-là. Et à un moment donné dans ma vie, en tant que serviteur de Dieu, je réalisais beaucoup d'échecs, d'insuccès, tout spécialement dans la prière pour les malades. Et un jour, le Seigneur m'a dit ceci. Il m'a dit, si tu veux plus de succès dans la prière pour les malades, tu dois prier comme moi je prie pour les malades. Tu dois prier avec plus de compassion. Et il m'a montré ce qu'était la compassion. Il m'a dit, quand tu pries pour un homme, tu dois considérer cet homme comme ton propre père. Comment est-ce que tu prierais pour ton père s'il était là et malade et devant toi? Alors tout de suite, j'ai compris que prier de cette façon, ça change tout. Il m'a dit, quand tu pries pour une dame, tu dois prier comme si c'était ta propre maman. Quand tu pries pour une sœur, tu dois prier comme si c'était ta propre sœur. Un enfant, comme si c'était ton enfant. Et quand j'ai compris cela, alors toute ma façon de prier a passé par une véritable révolution. Parce que bien souvent, sans nous en rendre compte, dans l'œuvre du Seigneur, dans notre témoignage pour le Seigneur, nous risquons de tomber dans une routine, n'est-ce pas vrai? Dans une routine. Et nous disons des paroles justes, mais avec un esprit faux. Nous disons des bonnes choses, des bonnes paroles, mais notre état d'esprit est faux. Il n'est pas en accord avec ce que nous disons. Et c'est pourquoi, avec Jésus, ses paroles et son esprit étaient dans une parfaite harmonie, n'est-ce pas vrai? C'est parce qu'il y avait cette parfaite harmonie entre ses paroles et son état d'esprit et son cœur, qu'il y avait une telle puissance qui se dégageait de lui, n'est-ce pas vrai? Et Dieu voudrait faire cela de vous comme de moi, de plus en plus. Vous êtes tous comme moi, je suis comme vous. Et notre plus grand combat, n'est-ce pas celui-ci? Bien souvent nous disons des paroles, mais la réalité intérieure ne correspond pas toujours à nos paroles, n'est-ce pas vrai? Il faut le dire. Bien souvent on va plus loin dans nos paroles. Par exemple, on parle beaucoup d'amour, mais dans notre cœur, on ne ressent absolument pas l'amour de Dieu, n'est-ce pas vrai? Il faut être vrai. Combien de fois on parle de pardon? Il y a des paroles de pardon dans notre bouche, mais dans notre cœur, il y a encore de l'amertume à l'égard de l'un, à l'égard de l'autre. Bien des fois, nous parlons de paix, et nous sommes tourmentés pour peu de choses. Nous sommes dans la crainte pour peu de choses. Voyez-vous, il y a un déséquilibre, il y a comme un divorce dans notre être intérieur. C'est pourquoi Jésus voudrait nous aider à avoir une vie chrétienne plus équilibrée, un ministère plus équilibré, n'est-ce pas vrai? Et il voudrait que ces deux choses, l'action extérieure et l'attitude intérieure, il voudrait que ces deux choses soient dans l'harmonie. Et si nous tendons à cela, par exemple, lorsque nous voulons apporter un message d'amour à quelqu'un, il faut que notre propre cœur soit rempli d'amour. Il faut que, la Bible dit, de rechercher l'amour. Autrement dit, c'est quelque chose, c'est un fruit l'amour aussi, n'est-ce pas vrai? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Autrement dit, c'est quelque chose qui doit grandir en nous, qui doit mûrir. Personne ne peut avoir la prétention, ici, moi le premier, de dire que dans la compassion et dans l'amour, on est des maîtres, des exemples. Non, personne ne peut dire cela. Mais nous devons tous grandir dans ce domaine-là. Et si nous partons de cette convention, avec cette détermination intérieure, d'avoir de plus en plus cette harmonie entre ce que nous disons et ce que nous sommes intérieurement. Si nous tendons à rétablir cet équilibre et à ne pas rester pendant des années dans ce divorce-là, parce qu'on peut rester pendant des années comme cela. Pendant des années, on peut se faire des illusions, prêcher sur l'amour et puis soi-même ne pas avoir de l'amour dans son cœur, prêcher la vérité et puis soi-même encore obéir à des traditions qui ne sont pas la vérité. On a le mot de vérité dans la bouche et soi-même, on obéit à des choses qui ne sont pas de la vérité. Alors, est-ce que cette vérité aura un impact? Pas du tout. Voyez-vous donc, il doit y avoir cette recherche, cette harmonie. Et je vois pour moi, et certainement vous aussi, vous l'avez réalisé, c'est un combat, n'est-ce pas vrai? C'est un combat. Et nous devons grandir dans ce domaine-là. Jésus est notre modèle et je voudrais justement donner quatre pensées importantes sur cette compassion divine, ce qu'elle est véritablement. Pour que cette compassion agisse en nous et au travers de nous. Car si cette compassion est en nous, mes amis, alors nous ne resterons pas stériles. Laissez-moi dire une chose. Alors, cette compassion divine peut littéralement transformer notre vie. Amen. Amen. Peut transformer notre vie. Transformer. Alors, voyons maintenant quelques paroles dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9. Ce sont des versets bien connus, mais nous allons les lire encore. Matthieu 9, verset 33. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Voyant la foule. Voyez, il se passe quelque chose. Quand Jésus voit la foule, quand Jésus voit des malades, quand Jésus voit des gens devant lui, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe. Quand on est ému de compassion, on n'est plus insensible, c'est fini. Cette indifférence disparaît. Il y a quelque chose qui nous touche dans le fond de notre cœur. Il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, voyez-vous, Jésus était plein de compassion, mais il voulait déverser cette compassion sur ses disciples. Il a été ému de compassion, alors il dit à ses disciples, voyez-vous, il ouvre son cœur. Dans la compassion, nous désirons communiquer aux autres quelque chose. Ce que nous avons, le feu qui est en nous, nous voulons le communiquer aux autres. C'est un bien précieux, tellement extraordinaire, que nous ne pouvons pas garder cela pour nous-mêmes, n'est-ce pas? Et il dit à ses disciples, il ouvre son cœur et il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez voyez, où la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. D'ouvriers. Il y a beaucoup de bricoleurs dans le royaume de Dieu. Des bricoleurs, il y en a beaucoup. Beaucoup de bricoleurs, mais peu d'ouvriers. Alors, du bricolage, du rafistolage. Il y en a, ils sont champions pour le rafistolage. On bricole, on fait tout, mais on fait rien du tout. On sait tout faire, mais on sait rien faire de bien. On fait beaucoup de choses en surface. Et apparemment, on se gargarise encore en disant, vous voyez tout ce que je fais. Mais c'est tout en surface, on fait beaucoup de choses. Mais il n'y a pas de racine, il n'y a pas de profondeur, il n'y a rien du tout. Il vaut mieux faire une chose bien que de faire 10 000 choses mal. Il vaut mieux se lancer dans un domaine précis et aller au fond des choses que de faire 50 000 choses et ne pas aller en profondeur. Mais il y a peu d'ouvriers, vous voyez l'ouvrier, dans cette pensée-là, il y a la pensée de qualification. Quand la moisson est là, on ne moissonne pas n'importe comment, vous êtes d'accord avec moi? Parce que la moisson, c'est une question de temps. Quand la moisson est là, on ne peut pas bricoler. Quand la moisson est là, il faut la rentrer. Il y a une question de temps dans la moisson. Le mauvais temps arrive, la pluie peut arriver, beaucoup de choses peuvent se passer. Et si la moisson n'est pas rentrée en peu de temps, tout peut être détruit. Donc ce n'est pas le moment de bricoler pendant la moisson, c'est le moment d'avoir des bons ouvriers. Qui en peu de temps ramasse la moisson. Et quelles sont ces qualifications? C'est ce que nous allons voir. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et au verset 1, chapitre 10, ça fait partie de la compassion cela. Puis, voyez-vous, encore une fois, il insiste. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Nous reviendrons sur cette pensée tout à l'heure. Voilà ce que Dieu veut faire. Il veut faire de nous des ouvriers qualifiés. Et cette qualification, nous devons exactement savoir en quoi elle consiste. Surtout en ce qui concerne la compassion, il y a de fausses conceptions dans ce domaine-là. Premièrement, bibliquement, dans la pensée de la compassion, il y a cette pensée précise. Avoir compassion, quand Dieu a compassion de nous, cela veut dire que il désire ardemment, soulignez bien ardemment, il désire ardemment nous bénir, nous sauver, nous guérir, nous délivrer, nous donner ce dont nous avons besoin, besoin réellement. Je souligne cette pensée. Avoir de la compassion, quand Jésus avait de la compassion, il y avait en lui ce désir ardent de bénir les gens, les malades, d'apporter le pardon aux pécheurs, d'apporter la guérison aux malades, d'apporter la délivrance aux opprimés. Acte 10, 38, qu'est-ce que nous dit ceci? Jésus de Nazareth allait de lieu en lieu, faisant du bien, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Voyez-vous, il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Donc dans la compassion divine, il y a cette première pensée, c'est vouloir ardemment bénir quelqu'un. Voilà l'attitude de Dieu à votre égard. Premièrement, il faut d'abord comprendre cela. Jamais nous ne pourrons dire aux autres que Dieu veut ardemment les bénir, les sauver, les guérir, les délivrer, si nous ne réalisons pas que Dieu le veut pour nous-mêmes. Vous êtes d'accord avec moi? Ça commence par là. Bien souvent, dans nos prières, lorsque les gens prient avec vous, lorsqu'on prie pour certaines personnes, n'avez-vous pas remarqué combien de personnes mendient les bénédictions de Dieu? Et ils sont là! Il prie de telle sorte qu'on a l'impression que Dieu ne veut pas les bénir. Je veux dire les sauver ou les guérir. Oh, s'il te plaît, Dieu, ça fait combien de temps que je te prie? Je pense, on ne le dit pas directement, mais je pense qu'il est temps quand même que tu fasses quelque chose. Et il y a même une certaine amertume à l'égard de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont de l'amertume à l'égard de Dieu. Parce qu'on a une mauvaise conception de la compassion de Jésus. Combien de fois nous disons, mais Seigneur, ne veux-tu pas me bénir, ne veux-tu pas me guérir, ne veux-tu pas intervenir, Seigneur? Mais Dieu nous dit, mais mon enfant, moi je le désire beaucoup plus que toi. Tu me demandes si je veux, moi, te bénir. Mais c'est moi qui te pose la question. Toi, veux-tu être guéri? C'est ce que Jésus un jour a posé comme question à un malade, vous êtes d'accord avec moi? La piscine de Bethesda, n'est-ce pas vrai? Il était malade depuis combien de temps? 38 ans! Et avez-vous remarqué la question que Jésus a posée? C'est apparemment bizarre. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Veux-tu être guéri? C'est pas possible! Que Jésus pose cette question à ce malade, veux-tu être guéri? On aurait pu dire, mais le malade aurait pu répondre, mais Seigneur, c'est pas possible. Tu me poses cette question-là comme si je ne voulais pas être guéri. Mais oui, bien souvent, sans nous en rendre compte, nous demandons à Dieu, mais nous ne sommes pas pleinement convaincus que Dieu veut nous guérir, nous sauver et nous délivrer de ce qui nous opprime. Donc la première pensée importante est celle-ci. Dans la compassion de Jésus, il veut ardemment poser sa bonne main sur toi. C'est pourquoi nous n'avons pas à mendier quoi que ce soit. Avez-vous remarqué bien souvent lorsque nous prions pour les malades, qu'est-ce que je leur dis? Je leur dis tout simplement, levez les mains et... louer le Seigneur, tout simple. Pas mendier le Seigneur, comme si le Seigneur, il ne voulait pas faire quelque chose pour vous. Comme si le Seigneur ne voulait pas vous guérir. Mendier montre que vous doutez de la compassion de Jésus. Mendier, pleurnicher, crier montre que nous ne connaissons pas le cœur de Jésus. Nous déformons ce qu'il est. Nous le prenons pour quelqu'un de dur. Je savais que tu es quelqu'un de dur, disait là dans la parabole, cet homme qui cachait son talent. Je savais que tu es un homme dur. Mais pourtant, il n'était pas dur. Mais mendier, pleurer, crier comme cela, révèle bien souvent notre incompréhension, notre ignorance de la compassion de Jésus, qui veut nous bénir bien plus que nous désirons être bénis. C'était le moment de dire Alléluia. Parce que je crois qu'il y a là une pensée merveilleuse. Vous êtes d'accord avec moi? Et vous approcher de Dieu comme cela peut absolument changer tout. Peut absolument tout changer. Ça change notre façon de prier. Ça change notre façon d'aider les autres aussi. Jésus veut ardemment te guérir. Toi, le veux-tu ardemment? C'est là le problème. Ne dis pas combien de gens disent « Seigneur, veux-tu me guérir ?» Ce n'est pas la question. La question est « Le Seigneur vous retourne la question du « Toi, veux-tu être guéri ?» Avez-vous remarqué l'autre aussi qui avait un enfant qui était possédé par un esprit muet? Qu'est-ce qu'il aime nous dire au Seigneur? « Seigneur, si tu peux faire quelque chose, fais quelque chose. » Comme pour dire « Seigneur, tu es peut-être dur d'oreille, je ne sais pas. » Il me semble que des fois tu guéris les uns, tu guéris pas les autres. Je ne sais pas qui tu es encore. Tu es peut-être un gars un peu spécial, je ne sais pas. Alors si tu peux faire quelque chose, fais quelque chose. Mais il s'est approché comme ça. Si tu peux, fais. Comme pour dire, t'es un peu bizarre. Tu guéris, oui, là, tu ne guéris pas l'autre, on ne comprend pas. Et toi, on est toujours un peu déconcerté. Qu'est-ce qu'il lui a répondu Jésus? Si je le veux. Tout est possible à celui qui croit. Jésus a retourné la question. Il a dit, comment, si je veux? Quelle question tu me poses? Comme si moi, mais pour qui tu me prends? Si tu le veux, Seigneur, guéris mon enfant. Comment? Si je le veux. Mais la question ne se pose même pas. Je le veux ardemment. Mais crois-tu que je veux que ton enfant reste comme ça, possédé par cet esprit muet? Tu crois que je le veux? Je ne le veux certainement pas. Tu souffres, mais moi je souffre encore plus que toi. Pose les bonnes questions. Posons les bonnes questions, Seigneur, et nous aurons les bonnes réponses. Beaucoup d'entre nous posons de mauvaises questions au Seigneur et nous n'avons pas les bonnes réponses.
Si tu le veux.
Si je le veux.
Mais voyons, tu me connais pas. Pour qui tu me prends? Mais tout est possible à celui qui croit.
Si tu crois, voyez-vous, il lui retourne la question. Lui dit, mon enfant, ça dépend pas de moi, ça dépend de toi.
Et là encore, Jésus a été plein de grâce. Là, le Père, qu'est-ce qu'il a dit? Je le crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Même cette foi était suffisante. Et Jésus, est-ce qu'il a délivré le gamin? Et il l'a délivré. Et pourtant, il n'y avait pas une grande foi.
Et il l'a délivré quand même.
Voyez-vous, même l'aveu, la confession du fait de dire, Seigneur, ben, tu vois, je suis perplexe, je comprends pas grand-chose, mais je veux quand même pas en doute qui tu es. Je crois quand même, Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité. Je veux croire, Seigneur. Et cette foi-là a suffi pour que le Seigneur agisse. C'est pourquoi ne mettons pas de limite à ce que Dieu veut faire. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ont limité un Dieu illimité. C'est le problème de beaucoup d'entre nous. Un Dieu illimité, vous ne pouvez pas le limiter. Vous êtes malade depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 38 ans. Mais qu'est-ce que cela pour Dieu? Mais combien d'entre nous, vous savez, frère, ça fait 15 ans que je suis dans cet état-là. Et l'autre dit, mais vous savez, mais ça fait 38 ans. Moi, ça fait 45 ans que c'est comme ça. Comme pour dire, vous croyez que Jésus peut faire quelque chose? Ouais. Pas sûr? C'est trop longtemps? Non, mes amis, Jésus veut. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Enlevons les barrières, enlevons nos limitations. Et même si notre foi n'est pas parfaite, mais au moins disons-lui, Seigneur, je veux croire. Je veux me confier en toi. Je veux enfin ne plus mettre de limites à ma foi. Je ne comprends pas, mais quand même, Seigneur, tu es grand. Alléluia. Gloire au Seigneur. Certains chrétiens, quand ils lisent leur Bible, on a l'impression qu'ils ont un petit Dieu et un grand diable. Voilà comment ils lisent la Bible, certains chrétiens. Quand vous les entendez parler, ils ont un mal de tête. Dieu ne peut même pas leur guérir un mal de tête. Oh, je suis pas sûr que Dieu veut me guérir mon mal de tête. Pas sûr. Il faut que je fasse, il faut que je prie pendant 40 jours. Pour savoir si Dieu, il veut oh, peut-être me guérir mon mal de tête. Ils ont un petit Dieu. Mais alors, attention, quand ça concerne le diable, vous savez comment il parle?
Oh, attention. Oh, c'est dangereux. Oh, vous savez comme le diable est puissant. Oh, vous savez comme le diable est rusé. Oh, vous savez tout ce qu'il fait. Ah, il fait des choses terribles, le diable. Et puis voilà tel exemple. Je connais telle personne. Elle est complètement liée par le diable. Oh, ce que... Alors, ils décrivent tout ce que le diable fait. Alors, une description diabolique. Et il y a comme un malin plaisir sur leur visage. Et quand on arrive au Seigneur Jésus qui doit guérir un mal de tête, Je suis pas sûr. Un petit Dieu et un grand diable. Voilà comment certains lisent leur Bible. Ou vous avez la mauvaise version, ou vous avez de mauvaises lunettes. Ou vous avez de mauvaises lunettes. Il faudra changer vos lunettes. Mais la version biblique est celle-ci. Nous avons un grand Dieu et un petit diable vaincu. Alléluia. Amen, amen. Et quand vous applaudissez, pensez que vous tapez sur la tête du diable. Allez-y, applaudissez. Vous prenez le visage du diable et vous le tapez. Allez-y, allez-y. C'est le diable. Allez, allez. Pa, 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 pa. Il est vaincu. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu est, et voilà ce que le diable est. Il nous faut commencer à voir les choses telles que Dieu les voit. N'est-ce pas vrai? Sinon, nous n'en sortons pas. Nous n'en sortons pas. Allons plus loin maintenant. Deuxième qualité d'un ouvrier. Si nous voulons que Dieu nous utilise, dans la compassion de Jésus, il y a une autre qualité. C'est que quand on est ému de compassion, on ressent la souffrance de l'autre, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre les douleurs des autres sur vous. Attention, il y en a qui vont plus loin.
Attention, nous allons y revoir ça un peu plus loin tout à l'heure. Attention, il y en a qui vont toujours un peu trop loin. Avoir de la compassion, c'est ressentir des douleurs de l'autre. Mais être illuminé, c'est prendre la douleur des autres sur vous. Ça, Dieu ne vous, le demande jamais. Attention. Mais dans la compassion, voyez-vous, le diable essaye de tout déformer. De tout déformer. Mais dans la compassion, il y a une pensée merveilleuse. Dans le mot, en allemand d'ailleurs, c'est, compatir veut dire souffrir avec. Voyez-vous, il y a cette pensée-là. Autrement dit, quand Jésus se trouvait avec les malades, il ressentait ce qu'il ressent. Autrement dit, il était là, il y avait une émotion en lui qui faisait que si l'autre pleurait, eh bien, il y avait cette souffrance en lui. Comme l'apôtre dit, pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Voilà un cœur plein de compassion. Nous faisons exactement le contraire. La Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui réjouissent. Nous, on fait exactement le contraire. Nous, on se réjouit quand quelqu'un pleure. On se réjouit. On lui dit, ah, c'est bien fait pour lui. C'est bien fait pour lui. Ah, je savais bien. Ça devait lui arriver. Ça devait lui arriver. C'est la justice. C'est juste. Et quand quelqu'un est dans la joie, notre jalousie nous monte à la tête. Et on commence à grincer des dents et à pleurnicher. Mais Seigneur, c'est pas juste. C'est pas juste, Seigneur. Tu l'as béni, lui. C'est pas juste. Non. Pourquoi tu bénis l'autre et tu ne bénis pas moi? Les autres se réjouissent et nous, on pleurniche. Mais c'est pas vrai, Seigneur. D'abord, puis tout ce qu'il a reçu, c'est pas vrai. C'est du diable. On est tellement jaloux. Notre cœur est tellement dur. Il n'y a pas de compassion. Quand l'autre se réjouit, notre cœur reste sec, au contraire. On pleurniche. Et la preuve que notre cœur est plein de compassion, c'est que quand on prie pour les malades, vous êtes là, avec ce cœur qui prie, qui intercède. Vous vous réjouissez de la moindre guérison que Dieu fait. Amen. Alléluia. Dans ce domaine-là, si vous voulez que Dieu vous utilise dans un ministère de guérison, ne commencez pas à chercher à avoir des grands miracles. Vous risquez d'attendre longtemps, de chercher longtemps, et de ne rien avoir du tout. Dans ce domaine-là, ça commence avec la petite guérison. Dieu va vous éprouver. Il va te dire, il va voir si tu sais te réjouir de la plus petite guérison que Dieu te donne ou que Dieu donne à un autre. Quand il verra que tu peux te réjouir de la plus petite guérison, alors tu pourras aussi, plus tard, obtenir de grandes délivrances. Et Dieu pourra t'utiliser pour de grands miracles. Mais jamais, jamais quelqu'un ne pourra être utilisé dans la puissance de Dieu s'il méprise et néglige les plus petites bénédictions que Dieu accorde à ses enfants, jamais. C'est pourquoi, là, il y a un point très, très important. Celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui en confierai des plus grandes. Nous devons faire les petites choses d'une manière, ou les choses ordinaires d'une manière extraordinaire. Et les choses extraordinaires, nous devons les faire d'une manière ordinaire. Amen. Voilà un cœur plein de compassion. Et si nous sommes dans cet esprit-là, mon ami, Dieu vous utilisera. Dieu vous utilisera et vous bénira. Donc, dans la prière, pour qui que ce soit, il nous faut dire, Seigneur, brise mon cœur dur et je veux ressentir ce que l'autre ressent. Je veux pleurer avec ceux qui pleurent et me réjouir avec ceux qui se réjouissent. Savez-vous qu'il est plus facile de pleurer avec ceux qui pleurent que de se réjouir avec ceux qui se réjouissent? Donc, dans la prière, pour qui que ce soit, il nous faut dire, Seigneur, brise mon cœur dur et je veux ressentir ce que l'autre ressent. Je veux pleurer avec ceux qui pleurent et me réjouir avec ceux qui se réjouissent. Savez-vous qu'il est plus facile de pleurer avec ceux qui pleurent que de se réjouir avec ceux qui se réjouissent? Ça, c'est encore un autre aspect de la vérité. Maintenant, vous dites, mais moi, je pleure avec ceux qui pleurent. C'est très bien. Tout à l'heure, on a vu les gens, ils faisaient tout à l'envers. Mais maintenant, il y a ceux qui pleurent avec ceux qui pleurent, c'est très bien. Ils sont toujours pleins de compassion à l'égard des, oui, de ceux qui souffrent et tout. Mais alors, quand il faut en arriver à se réjouir avec ceux qui se réjouissent, impossible. Tellement orgueilleux. Quand quelqu'un est béni, aïe, 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 ça passe pas ici. Ça sort pas, c'est impossible. Notre cœur est attendri quand l'autre souffre, mais quand l'autre est béni, aïe, alors là, c'est un coup sur la tête, ça. Il faut être plus spirituel pour se réjouir avec ceux qui se réjouissent que de pleurer avec ceux qui pleurent. Il faut être plus spirituel. Faut que je le vois pour moi-même. Quand quelqu'un est béni et tout et tout, est-ce que je peux dire Alléluia de tout mon cœur? Ouais, gloire à Dieu. Tu sais qu'il a été béni, là, c'était formidable, hein? Ouais, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ça passe pas. Et tu sais, l'autre, il lui est arrivé quelque chose. Ah, il a eu un accident. Ah bon, c'est dommage. Viens, on va prier, tout ça. Alors, on compatit, oui. On pleure avec ceux qui pleurent. Mais alors, quand l'autre est béni, pas vrai. Que Dieu nous aide à avoir ce cœur plein de compassion. Et dans les petites choses, mes amis, dans les petites choses. Nous devons être sensibles dans les petites choses. Et quand vous priez pour quelqu'un ou autre, avant toute chose, s'il vous plaît, montrez de la compassion. Amen. Montrez de la compassion. Montrez que vous aimez la personne. Ça ne veut pas dire que vous aimez tout ce que la personne a fait, même de mal, pas du tout. Mais au moins elle, la personne elle-même, qu'elle a du prix à vos yeux. Ça, ce sont des choses fondamentales. Et si nous ne mettons pas en pratique ces choses, nous risquons de tourner en rond dans notre vie spirituelle. Avez-vous remarqué combien nous fuyons certaines personnes et nous sommes attirés par d'autres personnes, n'est-ce pas vrai? Quand certaines personnes arrivent, tout le monde fuit. Quand d'autres personnes arrivent, tout le monde leur court après. Pourquoi? La compassion fait la différence. La compassion fait la différence. Que le Seigneur agisse, n'est-ce pas, dans nos cœurs. Cette deuxième pensée. Une troisième pensée maintenant dans la compassion divine. Il faut aimer la personne, n'est-ce pas? Aimer la personne. Mais la troisième pensée est celle-ci. Il faut haïr le mal ou la maladie qui détruit la personne. Dans la compassion de Jésus, il y a un sentiment de haine. Mais pas à l'égard de la personne. C'est là qu'il faut bien faire la différence. À l'égard du malin qui détruit la personne. C'est pourquoi nous avons lu tout à l'heure, puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Voyez-vous, dans la compassion de Jésus, il y avait un amour pour les malades, mais une haine contre la maladie. C'est là qu'on voit la véritable compassion. Combien de gens, soi-disant, pensent qu'ils ont la compassion divine, mais c'est que du sentimentalisme. Oh oui, c'est mielleux. On aime soi-disant la personne, mais on ne voit pas du tout l'ennemi. En cajolant la personne, on cajole l'ennemi aussi. On cajole la personne, et puis derrière, il y a l'ennemi. Oh, cajole aussi l'ennemi. On sent des frissons, mais enfin, il y a des charges qui viennent, mais ça ne fait rien. On cajole quand même l'ennemi aussi. Non, on doit aimer la personne, mais haïr le diable qui détruit la personne. Voilà pourquoi Jésus parlait sévèrement, non pas aux malades, mais aux démons et à la maladie. La Bible dit qu'il parlait sévèrement aux démons. Il y en a qui parlent sévèrement à leur femme. Ou à leur mari. C'est pas à son mari et à sa femme qu'il faut parler sévèrement. C'est aux démons. Si certains maris parlaient aussi sévèrement aux démons qu'ils le font avec leur femme, ils chasseraient beaucoup de démons. Ah oui, si certains maris parlaient aussi sévèrement aux démons qu'ils le font avec leur femme, ils chasseraient beaucoup de démons. Mais ils chassent les mauvaises personnes. Je vous dis, il leur manque des lunettes, ils voient pas très clair. Ils doivent changer de lunettes. Puis il leur dit, voici, je vous donne le pouvoir de chasser les esprits impurs. Dans la compassion, il y a cette haine du mal et de la maladie. C'est pourquoi, si vous voulez, vous, être délivré de votre péché, pardonné de votre péché, et en même temps guéri de votre maladie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut haïr votre péché et votre maladie. Voilà pourquoi certains ne sont pas délivrés de leur passion. Voilà pourquoi certains ne sont pas délivrés de leur péché. Voilà pourquoi certains ne sont pas délivrés de leur maladie, de certaines passions, parce qu'ils ne haïssent pas le mal et le péché et la maladie. Certains encore au XXe siècle considèrent que la maladie est une bénédiction de Dieu. Vous vous rendez compte? On est des arriérés au XXe siècle. Au premier siècle de l'Église chrétienne, la maladie était considérée comme une œuvre du diable. Et au XXe siècle, on considère la maladie dans l'Église comme une œuvre de Dieu. On est d'arrière, on a 20 siècles de retard. Je vous ai parlé tout à l'heure de Actes 10, 38. Jésus de Nazareth allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise. Et le mot emprise ici est plus fort dans le texte grec. C'est sous tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Un autre mot encore, sous la tyrannie du diable. Voilà comment Jésus considérait la maladie des hommes et des femmes sous la tyrannie du diable, non pas sous la bénédiction de Dieu. C'est la confusion aujourd'hui, n'est-ce pas vrai? Et dire que c'est la maladie, par exemple, puisqu'on parle de la maladie, que c'est une bénédiction de Dieu, ce n'est pas faire preuve d'amour et de compassion pour le malade. Pas du tout. C'est lui rendre de plus mauvais services. Car Jésus disait exactement le contraire. Nous sommes pleins de sentiments à l'égard de la personne, mais pas de compassion. Nous avons un sentiment humain à l'égard de la personne, mais pas une compassion divine. Il ne faut pas confondre les choses, vous êtes d'accord avec moi? On confond tout, c'est la confusion. Voilà la compassion de Jésus. Il leur dit maintenant, allez. Pourquoi? Parce que derrière cette maladie, ce péché, cette oppression, il y a un malin qui est là, il y a un diable qui est là. Il y en a qui ne croient même plus au diable. Celui qui ne croit pas au diable est esclave du diable. C'est le moment de dire alléluia. Alléluia. Ah, vous ne voulez pas le dire? Ben moi je vais dire votre place. Alléluia. Vous ne voulez pas le dire plus fort? Moi je le dis plus fort. Alléluia. Celui qui ne croit pas au diable est esclave du diable. Peu importe qui vous êtes, si vous ne croyez pas aux démons et au diable, vous êtes esclave du diable et des démons. Comment voulez-vous résister au malin et à l'ennemi si vous ne croyez pas qu'il existe? En toute chose, et Jésus allait toujours à la racine du problème des choses, n'est-ce pas vrai? Il allait toujours à la racine du mal. C'est pourquoi nous ne sommes pas des médecins et autres. Quand nous prions. Dieu a mille façons de guérir, n'est-ce pas, quelqu'un? Mais Jésus, il agissait comme cela, et nous aussi, nous devons agir de la même façon, n'est-ce pas vrai? Cela ne veut pas dire que Dieu ne veut pas guérir autrement, n'est-ce pas? Mais il y a là une méthode divine que nous ne devons absolument pas ignorer, mais au contraire mettre en pratique. C'est la méthode de Jésus. Est-ce qu'elle est bonne, la méthode de Jésus? Amen. Gloire au Seigneur. Alors vous avez bien compris? Il faut parler sévèrement à qui? À sa petite femme? Son petit mari? Tais-toi! Marier! Bon, comme tu as parlé comme cela à ton mari et à ta femme, maintenant c'est au démon que tu vas parler comme ça. D'accord? Maintenant, sors! Alors le diable, le démon va commencer un peu à se courber. Oh là là, ça devient sérieux avec celui-là. C'est pourquoi dans la compassion, il y a cet élément-là. Vous êtes d'accord? Il y a cet élément important. Et je termine maintenant, et nous allons prier. Un quatrième élément de la compassion divine, c'est que non seulement compatir veut dire souffrir avec, mais il y a une pensée qui va encore beaucoup plus loin que cela. À la croix du calvaire, Jésus a non seulement souffert avec nous, mais il a souffert à notre place. Donc il y a certaines souffrances que nous ne devons plus souffrir parce qu'il a souffert à notre place. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, nous dit Ésaïe 53. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est dans ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Alléluia. Voilà donc une quatrième pensée importante que l'on doit dire aux malades, aux pécheurs aussi. Le pécheur, il a déjà été pardonné il y a 2000 ans. Il a été déjà libéré il y a 2000 ans. Savez-vous que vous avez déjà été libéré il y a 2000 ans? La culpabilité de votre péché, la condamnation de votre péché a déjà été portée par quelqu'un, par Jésus. Quelqu'un a déjà payé votre dette. Votre prison est libre. Votre prison, je veux dire, est ouverte. Et vous ne savez pas que vous êtes libre. Et vous restez dans votre prison. La prison de votre péché a été ouverte. Alléluia! Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a payé ta dette, il a ouvert ta prison. Et il te dit, mon enfant, maintenant, sors de ta prison, sors de la maison du péché, sors de l'esclavage du péché, sors de l'esclavage du diable. Tu es libre, j'ai payé ta dette, tu es libre. Alors qu'est-ce que le pécheur doit faire? Il doit venir tout simplement aux pieds de Jésus et lui dire, merci Seigneur, tu as été blessé pour mes péchés, tu as été brisé pour mes iniquités. Alors Seigneur, tu as déjà porté mes péchés, et moi, maintenant, je peux recevoir le pardon de mes péchés à cause de ce que tu as fait pour moi. Amen. C'est cela la compassion. Il a déjà souffert à notre place pour nous libérer de notre culpabilité. Il a aussi souffert de nos maladies pour que vous n'ayez plus à porter votre maladie. Voilà ce que chaque malade devrait comprendre. C'est que cette maladie dont vous souffrez, Jésus l'a déjà soufferte à la croix. Si bien que vous n'avez pas à porter, à souffrir ce dont il a déjà souffert. C'est là l'œuvre de substitution de la croix. À la croix, il y a une œuvre substitutive. Jésus est mort à votre place pour que vous ayez la vie. Jésus a porté votre péché pour vous donner sa justice. Jésus a porté vos maladies pour vous donner la guérison. Jésus a porté vos injustices pour vous donner sa justice. Alors voyez-vous, quand on comprend cela, dans la compassion de Jésus, c'est l'œuvre totale de délivrance. Amen. Et cette œuvre-là a été signée par le sang qu'il a versé à la croix. Amen. Le sang de Jésus a été le sceau qu'il a payé pour nous délivrer. Maintenant, ce ne sont plus vos larmes qui sont importantes. Ce ne sont plus vos prières qui sont importantes. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. C'est la croix de Jésus. Ce sont les souffrances de Jésus. Dans ces meurtrissures, vous avez été guéri. C'est ces meurtrissures qui comptent. Non vos larmes, non vos pleurs, non vos jeûnes, non votre religion, non vos bonnes œuvres. Non, mon ami. Tu ne pourras jamais te libérer par tes propres œuvres. Nul ne sera justifié par les œuvres de la loi, nous dit la Bible. Car tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par la foi en Jésus-Christ. Amen. Gratuitement justifiés, gratuitement pardonnés, gratuitement guéris, gratuitement délivrés. Alléluia. Il n'y a plus qu'à venir et à sortir de la prison en disant, Seigneur, mais je suis libre. Savez-vous que vous êtes déjà libre? C'est déjà fait. Vous êtes déjà guéri. Vous êtes déjà pardonné. C'est pourquoi il n'y a plus qu'à dire merci Seigneur, comme on le fait dire. Louer le Seigneur, il n'y a plus qu'à louer. Merci Seigneur. Et quand on fait cela, l'ennemi le sait. Et c'est ce qu'il veut vous empêcher de faire. Il veut vous pousser à murmurer, à quémander, à mendier. Et en faisant cela, vous ne savez pas que déjà vous êtes libre. Vous êtes dans une prison ouverte. Et vous criez, oh mon Dieu, viens ouvrir la porte de la prison. Et la prison est ouverte devant votre nez. Et vous criez, oh mon Dieu, délivre-moi de cette prison. Oh mon Dieu, délivre-moi de cette prison. Mais quand est-ce que je vais? Combien de temps je vais rester dans cette prison? La prison, la porte est ouverte devant vous et vous demandez au Seigneur de venir vous délivrer. Vous êtes déjà libre. Alléluia. Amen. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son l'amour. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Merci, Seigneur. Ainsi, nous allons prier maintenant. Mais avant la prière pour les malades, est-ce qu'il y a au milieu de nous des gens qui savent qu'ils n'ont pas encore mis leur vie en règle avec Dieu? Tu es religieux peut-être, mais tu n'as pas donné ta vie au Seigneur. Tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas converti réellement. Jésus n'est pas ton sauveur personnel. Tu n'en as pas l'assurance. Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui veut dire, Seigneur, ce soir, je sais que de moi-même je ne peux pas me pardonner, me sauver. Seul Jésus sauve et sa mort sur la croix. Christ est mort pour nos péchés. C'est la mort de Jésus sur la croix qui te sauve de tes péchés, rien d'autre. Courbons-nous quelques instants dans la prière maintenant. Et s'il y a quelqu'un qui veut dire, Seigneur, ce soir, je crois que tu es mort sur la croix pour pardonner mes péchés. Je le crois. Je viens à toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Levez votre main là où vous êtes et nous allons prier pour vous. Dieu vous bénisse, madame. Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour vous. Dieu vous bénisse, monsieur. Vous avez déjà été pardonné. À la croix du calvaire, Jésus a fait ce miracle. Oui, Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore qui a réalisé ce soir qu'à la croix, Jésus a déjà accordé le pardon. La dette est payée. Alléluia. Il a déjà souffert. Il te libère maintenant. Gloire au Seigneur. Oui, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, monsieur. Je vais demander à ces personnes de s'approcher rapidement ici. Approchez-vous rapidement. Maintenant, nous allons prier pour vous. Alléluia. Approchez-vous, ceux qui veulent vraiment se convertir ce soir et donner leur vie au Seigneur. Venez, mes amis. Si Dieu vous parle, venez tel que vous êtes et nous allons prier pour vous maintenant. Gloire au Seigneur. Alléluia. Louons le Seigneur. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Gloire au Seigneur. Dieu te bénisse, mon ami. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur quelques instants. Louons le Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Mettez-vous là-bas devant. Oui. Gloire au Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Approchez-vous ici, s'il vous plaît. Ici. Prions tous ensemble pour nos deux chers amis. Seigneur Jésus, tu es venu de compassion pour ceux qui viennent à ce soir. Ce soir encore, tu es là pour pardonner. Purifier leur cœur, Seigneur. Seul ton sang peut le faire. Et ils viennent à toi, Seigneur. Car toi seul as payé leur dette. Seigneur Jésus, fais une œuvre profonde en nous et que la croix leur soit révélée. Tu es mort, oui, tel que je suis, sans rien à moi. Sinon ton sang versé pour moi, agneau de Dieu, je viens. Seigneur, pose ta bonne main, pose ta bonne main, et fais une œuvre profonde en nous, viens après moi.
Yeah. le Seigneur appelle cet après-midi. Il y a d'autres qui devraient s'approcher et donner leur cœur à Jésus. D'autres devraient se décider pour Jésus. N'endurcis pas ton cœur si tu entends l'appel de Dieu. Alléluia.
Il y a ici un homme qui est lié par l'alcool et que le Seigneur appelle. Viens à moi. Moi seul, je peux te libérer de cet esclavage. Tu fais ce que tu ne voudrais pas faire. Et tu ne fais pas ce que tu devrais faire. Le Seigneur t'appelle. Par tes propres forces, tu ne peux pas te libérer. Mais le Seigneur t'appelle. Repends-toi. Viens et sois libéré.
Amen. Viens à Jésus ce soir. Viens lui donner ton cœur. Tel que je suis, viens
Alléluia. L'Esprit de Dieu est là. La compassion de Jésus est là. Et nous allons prier maintenant pour les autres personnes. Ceux qui veulent la prière, qui croient que Jésus veut les bénir, veut les guérir, veut les délivrer. Si vous croyez, si vous haïssez votre péché, si vous haïssez votre maladie, si vous haïssez cette passion, Jésus vous délivrera de cela. Et s'il ne peut pas vous délivrer de quelque chose que vous aimez dans le fond de votre cœur, si vous haïssez ce mal qui vous tenaille, Jésus veut te délivrer ce soir. Il a payé ta dette.
Oh, le verre, on le va, c'est toi. J'aime te contempler,
pendant ton sang tu es,
ta garde en règle.